Radioscopie.
Anne Sinclair.
Jacques Chancel. Les téléspectateurs, qui semblent oublier parfois l'itinéraire exact de ceux qui les visitent, ont simplement retenu que vous aviez remplacé, vous, Anne Sinclair, Daniel Gilbert, il faut le dire tout de suite. Mm-hmm. Or, il y a eu, dans votre démarche tranquille, un essai d'abord très bien transformé, sur FR3, c'était l'homme en question. Il y a eu ensuite des rencontres qui sont encore dans notre mémoire toute fraîche, comme l'invité du jeudi, où on n'a pas tous les jours 20 ans, sur Antenne 2. Mais toutefois, pour longtemps, vous serez celle qui a remplacé Daniel Gilbert. Alors, je voudrais savoir, Anne Sinclair, si cela vous agace.
Ça m'agace un petit peu parce que ça veut dire que je ne suis pas une toute jeune à la télévision, vous venez de le dire. Ça fait quand même quelques années que j'en fais. Ça fait, disons, depuis 76. En effet, 76, j'étais à FR3. J'en suis partie un petit peu en claquant la porte parce que j'estimais de ne pas avoir les coudées assez franches ou du moins qu'on me mettait quelques bâtons dans les roues. Puis j'ai trouvé une hospitalité tout à fait généreuse et tranquille, comme vous disiez, à Antenne 2, où j'étais parfaitement heureuse 3 ans. Alors me voilà à TF1, j'aurais fait les 3 chaînes, en effet, il ne me restera peut-être pas beaucoup de choses à faire ou à les refaire en sens inverse.
Il vous reste Radio France, une 4e chaîne qui pourrait venir bientôt.
C'est vrai,
tout l'espoir des satellites.
Je vous remercie de vos encouragements, voilà. En effet, j'espère que l'avenir est devant. Alors c'est vrai que. Vous savez bien, les journaux, les journalistes ont toujours tendance à prendre la dernière image des personnages. Alors, le dernier état de la situation, c'est « je remplace Daniel Gilbert ». Bon, c'est vrai, je remplace une institution qui avait 13 ans. Je suis consciente de mes responsabilités, d'ailleurs, c'est ça que vous voulez me faire dire.
Et tout de suite, un peu perfide, vous faites remarquer que quelqu'un s'était habitué et que vous avez pris un fauteuil qui, en fait, méritait d'être lâché. C'est ce que vous avez voulu dire, là.
Écoutez, je pense qu'on ne doit pas être concessionnaire à vie du petit écran. Mmh. Ça, je suis persuadée
vous
de ça.
Vous donnez combien d'années?
Oh, écoutez, j'ai 5 semaines. Laissez-moi encore quelques petites semaines.
C'est vrai.
Bon. Alors, je crois vraiment qu'il ne faut pas s'estimer locataire de cette case télévisée. On est vraiment de passage. Mmh. C'est un métier... Ça s'apparente au métier de la scène. C'est un métier de saltimbanque. On est là, on essaie de faire quelque chose qu'on aime, qu'on sent, qui vous ressemble. Si les gens n'aiment pas, si le public se lasse, si on déçoit, si on ne convient pas, on rentre chez soi, il faut savoir plier bagages. On n'est pas dans l'administration, on n'est pas fonctionnaire, surtout pas. Alors, je crois que quand on a eu la chance de l'exercer longtemps, c'est déjà bien, on doit être content et remercier ses employeurs, ce que je fais moi jusqu'à présent d'ailleurs, et puis après essayer de faire autre chose. Alors moi j'essaie de faire autre chose, si je ne conviens pas, j'entrerai chez moi, vous savez.
Alors vous me parlez de Daniel Gilbert, ou plutôt je vous en parle,
oui,
vous avez eu le goût de la rencontrer? Parce que lorsque on se passe le relais, parfois il y a des élégances qu'il faut avoir. On dit au revoir, pardon de prendre votre place. Non, ça s'est pas fait comme ça.
Écoutez, ça s'est pas fait comme ça. Je ne la connais pas. Je dois avouer, je ne la connais pas. Nous nous sommes
vous
jamais
manquez de
rencontrés.
Curiosité.
Nous nous sommes jamais rencontrés. Finalement, les choses se sont faites tout à fait simplement. C'est que André Harris, qui dirige les programmes à TF1, m'a fait venir en me faisant un certain nombre de propositions, dont celle-ci, en me disant voilà, l'émission Daniel Gilbert va s'arrêter. Est-ce que vous avez le goût et l'envie de reprendre cette case horaire? Moyennant quoi, j'ai dit oui. Cela dit, je ne sais pas si le jour où Bernard Pivot a fait apostrophe, il a forcément conversé avec le prédécesseur qui occupait la case avant. Si ça se trouve qu'on ne s'est jamais rencontré, je serais ravie de la rencontrer, de lui serrer la main. Je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas.
Alors, votre vie à ce jour a-t-elle changé? Parce que vous veniez à la télévision, je dois dire, une fois par mois de temps en temps. Mmh. Et aujourd'hui, vous vous imposez quotidiennement, ce qui est un difficile parcours. Donc, on vous reconnaît plus encore. Donc, on a envie de vous voir différemment. Et vous devez en peser le poids.
Le rythme de vie, d'abord, c'est sûr, a changé. Il y a deux luxes dans la vie. Il y a le luxe de choisir son métier et le luxe d'organiser son temps. Alors, j'avais les deux luxes avant. J'avais choisi ce métier, la télévision, la radio, autrefois, un métier de communication que j'aime. Et ça, ce luxe-là, je le garde. Organiser son temps, c'est le plus grand luxe pour les femmes. Je crois que toutes les femmes qui savent ce que c'est que travailler et pouvoir organiser son temps, c'est merveilleux. Et avant, c'est vrai que je l'organisais. C'est-à-dire que j'étais maîtresse complètement de mon temps et par le jour où j'étais en effet en studio, j'organisais ma vie à peu près à ma guise. Alors ça a changé de tout au tout. Je sais ce que c'est aujourd'hui qu'un travail régulier. Vous me direz, il était temps. Il était temps que j'apprenne à aller tous les jours à heure fixe à un travail et être prise complètement à plein temps. Donc l'organisation de la vie a changé. Le regard des gens, c'est ça que vous me disiez au
oui,
fond
parce que jusqu'à présent, vous étiez remarquablement considéré. Vous n'aviez que de remarquables critiques. Et aujourd'hui, on commençait à dire, tiens, elle est un peu plus froide que Daniel Gilbert. Tiens, elle vient dans sa case. Tiens, c'est tout à fait autre chose.
C'est tout à fait normal, ça. Puis c'est tout à fait sain.
Mais c'est bien de remplacer un produit par un autre qui serait totalement différent.
D'abord, c'est tout à fait sain qu'on soit discuté. Enfin, je trouve ça tout à fait normal. Tant qu'on est dans une case à l'abri, on est à l'abri de tout. On est à l'abri des critiques, et puis les gens ne vous regardent pas. Et puis c'est simple, on ne dérange personne. Bon, alors c'est vrai que quand on vient tous les jours chez les gens à l'heure du déjeuner, c'est vrai qu'on vous remarque et que les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais en plus, vous dites on remplace un produit par un autre.
Pardon de dire produit. Hein.
Non, mais c'est tout à fait ça, en plus. C'est tout à fait ça. À chacun d'apporter sa marchandise et à chacun de déclarer si elle est bonne ou si elle est avariée. Si vous voulez, je crois que quand on chausse des pantoufles de quelqu'un qui vous précède, c'est jamais une bonne idée. Je n'ai pas le même tempérament que Daniel Gilbert, j'ai rien à voir avec elle. Je voulais pas que l'émission ce soit la version brune d'une version blonde, ça n'aurait eu aucun sens.
Mais vous voulez son public aussi. Quand même.
Alors, là, toute la question est là. Est-ce qu'il faut dire il y a un public
Il y a des publics.
Est-ce qu'on est propriétaire de son public?
Non.
Est-ce que finalement, il n'y a pas des publics qui regardent et qui choisissent? Est-ce qu'en fin de compte, ce n'est pas les gens qui font le tri? Est-ce que ce n'est pas les gens qui ont cette suprême liberté de tourner le bouton et de dire, écoutez, ça, j'en veux pas, ou au contraire de l'allumer? Je crois qu'il faut être très modeste et savoir que, vous le savez bien, Jacques, il faut savoir qu'on propose ce qu'on a proposé, et puis les gens prennent ou ils ne prennent pas. Moi, je comprendrais tout à fait qu'ils ne prennent pas, après tout. Mais bon, on propose, on fait ce qui vous ressemble. Vous savez, je ne sais plus qui disait, je crois que c'est François Giroud, il disait que quand on lance un journal, il faut que le journal, on ait envie de le lire. Et bien, quand on fait une émission de télévision, faut que une émission de télévision qu'on a envie de faire, qu'on ait même envie de regarder, en espérant bien sûr faire partager sa passion par le plus grand nombre, c'est tout.
Alors vous le savez, Anne Sinclair, les légendes s'installent bien avant que vous n'y preniez garde et personne n'y peut rien. Alors des gens ont dit des choses, ainsi, pour longtemps, vous serez belle, charmante, un peu froide et impertinente. C'est écrit, c'est inscrit, il faudra vous y faire.
C'est pas franchement désagréable.
Non, c'est pas, mais un peu froide peut-être, ça peut gêner.
Un peu froide.
Alors est-ce vrai?
Non, je ne crois pas être froide. Je crois que j'ai une certaine réserve.
On me dit derrière la glace, non chaleureux. On me fait comprendre.
Je crois que j'ai une
certaine réserve. Alors peut-être vous forcer de temps en temps pour faire plus rigoureuse, pour faire plus sérieux.
Je ne suis pas sûre que ce soit pour faire plus sérieux. C'est que ça m'agace un petit peu, vous savez, les ondes qui dégoulinent de gentillesse. Je crois qu'on abuse un petit peu trop de la main dans le dos et qu'on a toujours tendance, quand on fait venir un chanteur, un comédien, quelqu'un qui va décrire un livre, de dire comme c'est remarquable, comme c'est formidable, comme vous êtes bien, comme vous êtes beau. Je crois pas que ce soit des relations humaines normales. Alors j'essaye d'être un peu vrai, d'être un peu comme on est dans la vie. On n'est pas toujours très gentil. Alors je suis peut-être quelquefois un peu impertinente, oui, c'est un peu ma nature.
Vous vous forcez même à être impertinente, parce que ça fait partie maintenant de votre image de marque. Vous allez être prisonnière, justement, de cette impertinence.
Je crois pas du tout.
Que vous n'avez peut-être pas.
Alors, je crois pas du tout. Je crois que quand on est tous les jours d'abord à l'antenne, tous les jours pendant une demi-heure, on peut pas se forger un personnage, c'est pas vrai. Il faut être à peu près naturel, du moins j'essaye de l'être. Sinon, alors, c'est une telle fatigue et une telle souffrance que ça devient très lourd à porter.
Et puis il y a également une manière de se conduire dans la vie. Vous avez une vie privée, c'est-à-dire que vous avez un mari qui s'appelle Yvan Levaille, qui est un confrère qui travaille à Europe numéro 1, et cela donne Yvan Levaille, Anne Sinclair. Et vous conduisez, ça me rappelle parfois Yves Montand et Simone Signoret.
C'est-à-dire que je vous vois très bien. Flatteuse.
Non, elle est belle la comparaison.
Ah oui, magnifique.
Mais je vous imagine dans quelques années allant gaiement de la Bastille à la Nation.
Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
C'est-à-dire que vous ne saurez faire les choses qu'ensemble.
Écoutez, pour tout ce qui est travail et pour tout ce qui est vie professionnelle, je crois qu'on tient à ce que ce soit séparé, pour des raisons de sauvegarde personnelle, d'abord, parce que je ne suis pas sûre que ce soit bien de faire travailler ensemble, de faire la même chose. Vous savez, le mari et la femme qui travaillent ensemble toute la journée, je ne suis pas sûre que ce soit très bon pour leur vie de couple, d'une part. Donc, on a toujours essayé de séparer tout ça. D'autre part, j'ai gardé mon nom de jeune fille, justement, pour avoir une identité qui soit la mienne et qu'on ne dise pas ce qu'on dit, d'ailleurs, remarquez, qu'on ne dise pas la femme d'Yvan Levaille, ce qui est pour moi...
Non, on dit Anne Sinclair.
Ce qui est pour moi d'ailleurs tout à fait un compliment, mais je voudrais exister en tant que telle. Cela dit, que nous soyons, que nous ayons les mêmes passions, les mêmes enthousiasmes, les mêmes déceptions et les mêmes combats, oui, je crois que c'est le lot d'un couple.
Hein, vous êtes-vous aujourd'hui délivré du trac? Parce qu'il y a un trac à la télévision qui est totalement différent du trac de la radio. Alors je ne sais pas comment vous vous comportez. D'ailleurs, être femme vous favorise peut-être d'une certaine manière.
C'est assez vrai. Enfin, ça l'a été en tout cas à une époque. Je me souviens quand je faisais L'Homme en question, cette émission qui était une émission de débat et un débat d'idées. Être femme était un avantage parce que les hommes sont souvent quand même galants et quand une femme les interrompt pour mener le débat, ils la laissent parler plus facilement qu'un homme. Donc ça me donnait un léger avantage, il faut bien le reconnaître. Le trac, c'est différent. Je crois qu'il me quittera jamais parce que je suis un peu angoissée, parce que je suis un peu traqueuse, parce que finalement, les quelques secondes, les quelques minutes qui précèdent le générique d'une émission, quand en régie, en télévision, on vous dit dans 2 minutes l'antenne. Dans 1 minute l'antenne, dans 30 secondes, attention, c'est à vous. Ça, c'est très angoissant. Ça, je crois que ça ne me quittera jamais. Alors, évidemment, quand on fait l'émission tous les jours, il faut quand même s'y habituer. C'est-à-dire qu'avant, j'avais le trac d'un jour sur l'autre au début de l'émission. Le trac ne me quittait pas. Vous savez, l'émission de suite terminée, le trac revenait pour la suivante. Maintenant, quand même, ça va mieux. Disons que le trac arrive quand Yves Mourouzi donne les titres du journal.
Enfin, vous avez le trac parce que vous êtes en bonne santé.
Oui, je crois que c'est sain d'avoir le trac.
C'est
oui.
Très sain.
C'est très sain. Ceux qui ne l'ont plus, alors, sont des blasés. Ça, je ne suis pas blasée du tout. Pas encore.
Alors, on pourrait se demander, Anne Sinclair, pourquoi vous allez si vite, car vous galopez en ce moment. Alors, il y a même un livre qui suit votre entrée en scène. Et ce livre, je l'ai là devant moi, il paraîtra dans une huitaine de jours, très précisément le 24 de ce mois. Le titre, une année particulière, c'est une année importante, c'est l'année 1980. Il fallait à tout prix que vous vous installiez aussi sur les pages d'un bouquin. Je veux dire que c'est une année particulière, à des tas de raisons, on le dira, mais moi j'en vois d'abord trois. C'est votre fils, David, c'est votre mari, Yvan, et puis c'est vous. C'est-à-dire, ce sont trois personnes qui vont ensemble. Et puis on parlera d'un grand personnage qui a l'air de vous accompagner, mais on reviendra au livre. Mais c'était une nécessité d'écrire ?
D'abord, vous dites « je galope ». Je ne crois pas que je galope tant que ça. Vous savez, les choses se font par hasard. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, je l'ai écrit pendant un an, puisque c'est une chronique sur une année, l'année 81. Donc j'ai commencé en janvier 81. Janvier 81, je faisais une émission tout à fait tranquille, dont vous rappeliez le parcours, sur Antenne 2, qui s'appelait « L'invité du jeudi ». Je n'avais absolument pas prévu que je ferais une émission régulière, vraiment en ce moment, sur TF1, au début de l'année. Donc vraiment, c'était deux choses totalement séparées, parce que peut-être j'avais le temps d'écrire, j'ai pris le temps et le plaisir de le faire. Donc les deux choses se sont mêlées et c'est pas du tout, vous savez, j'ai pas du tout de plan de carrière. Hein. Je ne suis pas du tout à me dire, voilà, il faut pour une femme dans les médias et sa panoplie au complet, il faut qu'elle fasse un peu de télévision, un peu d'écriture. Non, pas du tout, c'est une succession de hasards. Alors le livre sort maintenant parce que comme c'est le journal d'une année, j'allais pas attendre 2 ans de plus pour le faire paraître, c'est tout.
Enfin, vous ne vous êtes pas forcé pour l'écrire?
Non, ça je crois pas, pas
bon,
du
alors,
tout.
Je veux dire comment ça commence, c'était le lundi 5 janvier 1981, début d'année sonne plus gravement que les autres. Année de tournant politique, peut-être. Année d'éveil véritable du lapin, sûrement. Lapin, c'est David, c'est l'enfant. Et en fait, dans ce livre, c'est le lapin qui gagne, et c'est bien. Année de la tentative timide et immodeste d'un carnet de route. Et je crois que ce livre a été écrit d'une certaine manière pour David, comme s'il fallait lui laisser un carnet de route pour plus tard. D'ailleurs, vous vous demandez à un certain moment ce qu'il fera en l'an 2000 lorsqu'il aura passé un certain cap.
Ce livre a été écrit pour David, sûrement, peut-être pour graver l'année. Vous savez, mon fils va avoir 3 ans, il aura 3 ans au mois de mai. C'est l'année donc où il a eu ses 2 ans. Et dans la vie d'un enfant, c'est une année importante. C'est l'acquisition du langage, c'est les premiers balbutiements. C'est le moment où il commence non seulement à faire des phrases, mais à comprendre les raisonnements, où on peut avoir une conversation. Donc c'est cet échange-là que j'avais envie de graver sur le papier. Et puis ce livre a été écrit en mémoire de mon père aussi, et c'était vraiment ma façon de lui rendre hommage, mon père qui est disparu depuis 2 ans, et c'était pour moi une façon de faire un dernier signe.
Ah, je dois dire que votre père respire bien dans ce livre et qu'il y est totalement présent. Mais parlons de David, vous dites aussi à un certain moment apprendre sans relâche à David l'esprit de résistance, comme si la vie devait être prise comme ça, très fort, et qu'il ne fallait plus la lâcher. C'est-à-dire qu'elle ne vous fait pas de cadeaux, la vie. Donc il faut apprendre à combattre. Et c'est ce que vous lui dites dès le commencement.
Apprendre à combattre, mais apprendre à résister à tout, à résister aux modes, à résister à l'entraînement des lois du milieu, à résister au conformisme, pas forcément se couler dans le moule des habitudes ou des autres, ou de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. C'est comme ça que j'ai été élevée. élever, c'est un peu comme ça que je voudrais l'élever. Alors c'est résister à l'entraînement des autres, c'est essayer de se forger ses propres choix et sa propre personnalité, c'est combattre un peu la vie, oui sûrement, se battre, je trouve que c'est très sain de se battre.
Alors au lundi 12 janvier déjà, on comprend un peu mieux quel est votre tempérament et on sait que vous allez être heureuse. Et je serais presque tenté de dire que vous êtes au commencement de votre bonheur, parce que vous voilà parmi les princes du régime. C'est-à-dire que vous êtes une femme d'aujourd'hui, attachée à un homme, d'ailleurs, que vous avez suivi, qui est François Mitterrand, et peut-être que vous êtes un peu trop attachée au pouvoir. J'ai respiré tout cela tout au long du livre. Mais c'est un acte d'amour de votre part. Alors vraiment.
Non, mais attendez.
Vous le tutoyez, le président de la République, oui, toi, François. Écoutez, nous, ensemble.
J'espère que vous l'avez lu avec l'humour qui s'impose.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, je le dis avec l'humour qui s'impose.
Loin de moi, je ne crois pas que ce soit un personnage qu'on tutoie, et puis je ne crois pas l'avoir jamais fréquenté au point de le tutoyer. Non, loin de là. Écoutez, je suis journaliste. J'ai donc fréquenté un petit peu le pouvoir, les hommes de pouvoir. C'est mon métier. Je les approche, et vous rappeliez tout à l'heure que mon mari est journaliste aussi, donc par métier je les approche et je les côtoie. J'ai été intéressée par deux hommes et qui se trouvent être Pierre Mendès-France et François Mitterrand. Pierre Mendès-France, j'étais très jeune et c'est un peu grâce à lui que je me suis éveillée à la politique. C'est vrai que j'ai compris avec lui ce que c'était que le pouvoir, la morale, la rigueur, la générosité. C'est peut-être ça un peu qui m'a formée, sinon politiquement, du moins sur les vagues notions idéologiques contre un mal avec soi. Bon, François Mitterrand, il se trouve que je l'ai approché. Giscard, je l'ai jamais approché. J'ai côtoyé comme ça de loin, j'ai jamais vu. J'ai peut-être serré la main une fois, oui, deux fois même. Mais François Mitterrand, j'ai eu l'occasion de le voir et j'ai apprécié l'homme. Quant à dire que je suis parmi les princes du régime, alors là, vous m'étonnez parce que non seulement je crois n'être pas la femme d'un parti, je crois que je ne serai jamais dans un parti politique.
Je crois que
c'est tout à fait contraire à ce que je pense et à ce que je crois, que les groupes bien homogènes, je n'aime pas beaucoup ça, que j'ai l'esprit beaucoup trop critique pour me satisfaire, au contraire, de groupes bien clos. Donc je ne serai jamais, jamais, mais alors voilà, jamais adhérente à un parti et jamais, justement, je ne suis pas adhérente à un parti politique, quel que soit ce parti politique, et peut-être surtout d'ailleurs s'il est au pouvoir. Parce que je crois que si vous lisez bien le livre, je crois que vous l'avez bien lu, je méfie beaucoup du pouvoir, des pièges du pouvoir, de l'amitié des grands, finalement de cette fascination qu'on peut avoir pour les gens qu'on approche et qui vous enlèvent votre esprit critique. Alors l'esprit critique, croyez-moi, je l'ai.
Alors, il y a ces autres lignes, ce monde n'aime pas les perdants, et moi je les crois plus intéressants que les autres. J'aimerais beaucoup Giscard au soir de sa défaite. C'était avant le samedi 24 janvier, c'était le mardi 20 janvier.
Oui, c'était je rappelais là quels étaient les sondages qui commençaient à donner Mitterrand gagnant, donc je prenais l'hypothèse éventuelle où Giscard serait battu, hypothèse à laquelle d'ailleurs personne ne croyait à l'époque. Mais c'est vrai que je crois les perdants peut-être plus intéressants, parce que justement, tous les feux figent les gagnants en une seule image, parce que... Justement, on ne s'intéresse qu'à ceux qui montent, jamais à ceux qui descendent. Et à ce moment-là, ils gagnent en humanité. Je suis sûre que Valéry Giscard d'Estaing a sûrement gagné beaucoup en humanité depuis sa défaite et qu'il est sûrement beaucoup plus intéressant à fréquenter maintenant. Ça, je suis sûre.
Et Anne Sinclair, je reviens à vous. Vous avez eu l'occasion, pendant un certain nombre d'années, de rencontrer des gens, de leur poser des questions, de les faire véritablement se révéler ou se dévoiler. Lorsqu'il s'agit de vous, êtes-vous gêné ou bien est-ce... Je vous vois dans un parcours tout à fait normal de phrases et de paroles, comme c'est cela, vous allez bien.
J'ai pas du tout l'habitude et je vous ai dit tout à l'heure que j'avais
naturel.
Le trac. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais le trac, vous avez ri, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de parler de moi, parce que c'est vrai que je fais parler les autres. C'est vrai aussi que j'ai surtout pas l'habitude de parler de ce livre, parce que c'est la première fois que j'en parle et je ne suis pas sûre d'en parler bien.
Et vous ne parlez que de vous, et vous ne parlez que des vôtres, et vous n'en parlez pas trop mal. Voilà. Alors, plus j'avance, dites-vous, plus les femmes me sont proches. Les hommes brillent, séduisent, conquièrent, mais restent unidimensionnels. Les femmes accomplies, j'en connais de plus en plus, qui ont réussi le difficile équilibre de leur vie, les dépassent souvent de 100 coudées. Démontrera David que la compétition entre hommes l'aidera peut-être à s'affirmer, mais que se frotter aux femmes, je vous en prie, ne souriez pas, l'aidera grandement à s'enrichir. Voilà ce que vous souhaitez.
Oui, je crois que ce livre, qui est donc une chronique sur une année, c'est un journal donc tenu pendant un an, en effet, d'une année particulière où mon fils a eu 2 ans, où il s'est passé un certain nombre de choses dont j'ai été témoin. Je crois que surtout ce que j'ai voulu, c'est que ce soit une chronique d'une vie de femme. Alors c'est vrai que je mène un peu une vie d'une femme privilégiée, particulière, qui est dans un milieu particulier. Mais je crois que je mène surtout une vie de femme et que plus ça va, en effet, plus les femmes me sont proches, plus je les comprends bien, plus je sais ce que c'est qu'une vie de femme éclatée, parce que c'est ça.
Vous estimez qu'elles sont supérieures aux hommes ?
Pas toujours, mais que finalement les poids qu'elles portent font que leur épaisseur est souvent plus grande. Vous savez, un homme, aussi dur travaille-t-il, aussi intelligent et brillant soit-il, il a souvent son métier et souvent que ça. La femme, qu'est-ce qu'elle doit faire ? La femme qui travaille, elle doit faire son métier aussi bien qu'un homme, et souvent on lui demande de faire mieux. Elle doit assurer la cohésion du foyer, les menus travaux ménagers, parce que le frigidaire en panne ou le dentiste du petit, c'est elle qui l'assure. Elle assure l'éducation de l'enfant parce que c'est elle qui en a le plus la charge et la responsabilité. Et puis, il faut aussi qu'elle mène la vie sociale, qu'elle soit présentable. Vous voyez, c'est toutes ces casquettes qu'on fait porter aux femmes qui rendent finalement, non pas le fardeau plus lourd, mais du moins l'éventail plus étendu et qui font que leur personnalité, quelquefois, s'enrichit plus.
C'est dit en 2 lignes, et je vous les rappelle, les femmes accomplies sont celles qui ont réussi le difficile équilibre de leur vie, et elles dépassent alors les hommes de 100 coudées. Il y a là, je le pense, d'abord un zeste de féminisme, et peut-être aussi un zeste de contentement de soi, non ?
Ah, sûrement pas de contentement. Alors ça, s'il y a quelque chose qui m'est totalement étranger, c'est le contentement de moi. Alors ça, franchement, je suis beaucoup trop angoissée pour ça, je doute beaucoup trop, alors ça, c'est très 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 loin de moi. Non, je parle des femmes, mes sœurs, finalement.
Très bien armées, comme vous.
Et quand elles sont accomplies, oui, alors elles dépassent les hommes de son côté. J'ai pas dit que je l'étais, mon Dieu, oh là là.
En sous-titre, quoi.
Ah, même pas, Jacques, comment pouvez-vous dire ça ? Et une femme qui essaye de réussir l'harmonie d'une vie, l'équilibre d'une vie. C'est ça, une vraie femme réussie, une vraie femme accomplie. C'est pas la femme qui a réussi une carrière extraordinaire, c'est pas la femme qui fait ceci ou qui fait cela, c'est celle qui préserve les équilibres, parce qu'elle a les équilibres à préserver. À l'homme, la voie royale de la carrière, à la femme, le lot de rendre la vie harmonieuse. Et c'est ça la réussite, enfin, pour moi.
Et pour Anne Sinclair, quand même, il y a la voie royale de la carrière aussi en ce moment.
Non, même pas.
Même si on n'a pas envie, c'est-à-dire c'est un travail que l'on fait.
Non, mais j'ai envie, pourquoi pas. J'ai bien sûr envie de réussir, j'ai envie que ça marche. Quand on fait quelque chose, il faut y croire, et je crois profondément à ce que je fais, sinon il faut mieux baisser les bras et rentrer chez soi. La carrière en tant que telle, c'est quelque chose là aussi qui m'est étranger. C'est-à-dire que je sais très bien que je peux arrêter du jour au lendemain. Je sais très bien qu'il faut se donner à fond dans ce qu'on fait, mais surtout pas s'accrocher de manière malsaine et être absolument persuadé qu'on ne peut pas faire autre chose. J'espère que je voudrais pouvoir éventuellement faire autre chose si un jour ça s'arrête. Donc la carrière, la carrière, c'est pour l'instant je fais ça. Je ne suis pas du tout sûre de cette voie royale, comme vous dites, surtout pour une femme, en effet, je crois pas.
Alors, tout à l'heure, je parlais de François Mitterrand et j'avais enlevé les phrases du contexte. Alors je vais les remettre maintenant dans votre livre, dans cette année particulière. Alors ça se passe le jeudi 5 février, dans la série On cause avec les candidats, dîner chez Mitterrand. Donc c'est déjà amusant. Et un peu plus loin, François, permettez que dans ce cahier, je vous appelle François, jure s'il est élu qu'il ne changera pas de vie et évitera l'enfermement du pouvoir. Alors je ne sais pas s'il a changé de vie, je ne sais pas s'il a évité l'enfermement du pouvoir, mais on pourrait être d'accord pour dire que le pouvoir quand même, ça rend prisonnier.
Sûrement. Je ne sais pas du tout non plus, d'ailleurs, parce que je ne lui ai ni posé la question, ni la possibilité de le vérifier. En effet, le jour où nous l'avions rencontré, il l'avait dit. Je crois qu'il le voulait profondément. Je crois surtout qu'il faudrait faire très attention, parce que le pouvoir isole, parce que le pouvoir enferme, parce que le pouvoir écarte à la fois des aspirations des gens, qu'on ne se rend pas toujours compte, et puis surtout qu'on est entouré de courtisans. Et ça, je crois que c'est ça le piège, le seul piège du pouvoir.
Les courtisans sont partout.
Les courtisans sont partout, ils seront toujours là.
Il y a
toujours des courtisans auprès du pouvoir, et c'est ça le vrai danger du pouvoir. Alors j'espère, je souhaite que, comme tout homme de pouvoir, il soit averti de ce danger-là et fasse attention, ça je crois.
Il y en a même certains qui disent, si on change d'idée, c'est bien, c'est autrement on se serait habitué.
Oui.
Alors, à différentes reprises, je vais vous parler, Anne-Saint, Sinclair de François Mitterrand, parce qu'il est présent dans tout le livre.
Oui, mais c'est pas, ah non, c'est pas un livre autant de François Mitterrand.
Ah, mais moi, je ne sais pas, moi j'ai bien lu le livre.
Oui, hein. C'est l'année où la France a changé de président. C'est l'année où j'ai tenu mon
journal.
C'est
une année particulière.
Oui, c'est une année particulière. C'est une année où mon fils a eu 2 ans le jour de l'élection de Mitterrand. Alors, c'était
alors,
ça.
Alors, le 6 février, aujourd'hui, vacances en célibataire. Et vous dites un peu plus loin, si fort aime-t-on son enfant, quel bonheur que ces moments de liberté, sans horaire, sans contrainte et sans bruit. Seules, les mères hypocrites se refusent à admettre pareille joie.
Oui, je crois qu'il faut être très honnête. Oui, aussi fort aime-t-on son enfant, c'est quelquefois un peu une entrave à la liberté. Et je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Moi, j'adore mon fils. Je suis ravie d'être avec lui. Je crois m'en être occupée. Je dis m'en être occupée parce que je m'en occupe un petit peu moins, hélas, en ce moment. Mais je crois m'en être occupée beaucoup et de très près. Et je crois que c'est une grande joie et un grand plaisir. Mais quelle est la mère qui oserait dire que c'est pas aussi une grande joie de se retrouver seule avec son compagnon sans avoir toujours forcément l'enfant avec soi. Je crois que il faut oser dire que aussi fort l'amour maternel soit grand, de temps en temps, ben il vous tape sur les nerfs l'enfant. On a envie de réagir, on a des réactions normales. Et les enfants ça fatigue, les enfants ça use les nerfs aussi. Et c'est merveilleux et c'est bien et c'est magnifique, mais ça abîme quelquefois.
Mais aujourd'hui, Anne Sinclair, vous avez l'impression d'avoir fait un tout petit peu de ce que vous souhaitiez réaliser?
Je ne sais pas très bien, parce que je ne suis pas sûre que je sache exactement ce que je voudrais réaliser. La seule chose dont je sois sûre, c'est d'essayer de réussir ce que je vous disais tout à l'heure. L'harmonie de la vie, les équilibres de la vie, c'est-à-dire du travail...
La réussite de la vie.
Oui, c'est ça. Le travail qui me satisfasse, le foyer qui tourne bien, l'enfant qui pousse au mieux, l'atmosphère familiale heureuse, et moi-même assez épanouie. Voilà, c'est à ça que je tends. Alors, pour l'instant, ça va, oui.
Mais lorsque votre fils David sera un tout petit peu plus grand, vous pourrez quitter la télévision pour vous occuper vraiment de lui?
Je crois que je peux quitter demain, s'il fallait. Si je m'apercevais, au moment où j'ai pris justement cette émission quotidienne que je fais tous les jours, mon fils a eu une réaction... un peu difficile. Il m'avait déjà vu pourtant à la télévision. Et curieusement, ce jour-là, il a dû sentir que je partais de manière un peu plus régulière et que je serais un peu moins à la maison. Et il a dit, je n'aime pas ce moment-là, c'est la maman de la télé, je voudrais ma maman à moi. Et ça m'a fait très mal, parce que je me suis dit que si c'était ça, et s'il le prenait aussi mal, peut-être faudrait-il que je choisisse. Et ce que j'explique dans le livre, c'est que j'espère n'avoir pas à choisir et je voudrais préserver le tout. C'est
peut-être difficile. Vous savez, votre enfant, David, il vous voit à la télévision. Il vous voit sur l'écran. Donc il sait, parce qu'il en a la preuve, que vous n'êtes pas avec lui.
Oui, oui, absolument. Il mesure très bien que quand je ne suis pas là, je suis sur cette étrange boîte qui est dans le salon et derrière laquelle il allait regarder d'ailleurs quand il était enfant pour voir si par hasard j'étais pas derrière. Mais bon, je voulais mesurer. Je crois qu'il le prend assez bien et que l'harmonie se fait et que l'habitude se fait et que tant qu'il a l'air épanoui et heureux, j'ai pas à modifier. Mais s'il devait ne plus l'être, il y a des priorités qui gomment tout. Et c'est vrai que la priorité, c'est pas forcément la petite case télévisée ni montrer ma bobine tous les jours sur le petit écran. Oui, sûrement.
Anne Sinclair, tout à l'heure, je parlais du couple. Je parlais d'Yvan Levaille, qui est un journaliste connu, reconnu. Et il pourrait y avoir, à un certain moment, peut-être justement dans ce couple, un peu de jalousie. Parce que, ou
de
l'un
qui?
Ou l'autre, de l'un et de l'autre. Ça peut arriver. C'est arrivé ailleurs, vous savez.
Écoutez, j'espère que non. Ça, c'est aussi loin que possible de nous. Enfin, je crois que je suis très fière de lui. Je crois qu'il est un peu fier de moi. Pour l'instant, alors, pas du tout. Pas du tout, du tout. Non, non, au contraire, chacun vit les succès ou les épines de l'autre avec... enfin, toute notre sensibilité, et je crois qu'on se suit de la manière la plus, mon Dieu, j'allais dire fraternelle possible, mais c'est presque ça.
Alors, un soir, au dossier de l'écran, vous avez vu Network de Sidney Lumet, et vous vous êtes posé les questions, sommes-nous des vedettes, sommes-nous à un certain moment dépendants du pouvoir, sommes-nous en vitrine, parce que c'est vrai, on nous montre, on est transformé en objet, donc susceptible d'être vendu, acheté, demander. Et c'est ce que vous écrivez.
Oui, j'avais été très frappée par l'intervention de Philippe Meyer, qui est chroniqueur de télévision à l'Express, et qui disait cette chose très juste. Il disait, moi, quand j'étais au lycée, je déjeunais à la cantine, nous avions des flageolets pour déjeuner. Et j'avais horreur des flageolets. Mais comme il n'y avait que ça à déjeuner et que j'avais faim, je mangeais les flageolets. Et je me disais, au fond, la télévision, c'est exactement ça. On est reconnu dans la rue, on est demandé parce qu'on nous voit. Le jour où on ne nous voit plus, on n'existe plus. C'est vraiment pas ça le vedettariat. Le vedettariat, c'est des vedettes qui demeurent, qui existent, qu'on demande, qu'on réclame, dont on se souvient et qu'on regrette. À la télévision, vraiment, c'est le produit qui arrive chez vous comme ça, le soir. Alors on prend parce qu'on voit. On ne choisit pas toujours. Enfin, en tout cas, non, on ne choisit même pas du tout. Et puis surtout, quand on disparaît, on vous oublie.
On peut choisir de fermer le bouton.
Voilà, c'est le dernier choix qui existe.
Mais c'est un choix formidable.
C'est le seul choix. C'est le seul choix. Mais c'est tout. On n'en a pas d'autres. Finalement, ceux qui paraissent, eh bien, on les prend parce qu'ils paraissent. Il en paraît d'autres, on les prend aussi. Et ça, je crois qu'il faut être d'une lucidité parfaite. C'est la seule chose qui peut sauvegarder ceux qui font de la télévision, de se dire, on n'a pas de public, on n'est pas demandé, on n'est pas forcément aimé. On est de passage, alors on nous prend, on nous regarde, on nous voit, on nous jette.
Et puis, il faut savoir que lorsqu'on n'est plus là, on est tout de suite oublié, et
absolument.
C'est très sain.
C'est très sain, hein. Absolument.
Alors, je me demande aussi comment vous êtes reçu maintenant par vos amis de TF1, parce que On peut dire, d'ailleurs cela a été écrit, ça n'est pas une indiscrétion, à un certain moment, Pierre Desgroupes souhaitait vous avoir comme journaliste en Antenne 2 pour présenter le journal.
Puis
vous avez préféré prendre vos libertés, c'est-à-dire ne pas être prisonnier d'une rédaction et être responsable tout à fait, par exemple, comme aujourd'hui, les Visiteurs du Jour sur TF1.
C'est exact.
Mais vous avez écrit sur les gens de TF1, il y a cette petite phrase, « Soirée très rétro hier devant la télé ». Oui. Valéry Giscard d'Estaing planchait face aux journalistes de TF1. Exercice assez réussi du président devant des confrères glacés de révérence. Le président assis, le président debout au tablé noir, le président et les diamants, le président et Varsovie, des questions plates et des réponses convenues. Quelle est donc cette peur qui colle les langues ?
Oui, je crois que...
Ils n'ont pas encore vu ça.
Ils n'ont pas encore vu. Bon, on verra comment ils réagissent.
Ça va être découpé dans les gazettes.
Bon, si vous voulez, c'est en effet... Bon, c'est la loi du genre. C'est un journal écrit au jour le jour. Ce jour-là, j'avais trouvé que, justement, le pouvoir et ses relations avec la télévision n'étaient pas toujours très saines. Je ne suis pas sûre que ces relations ont fondamentalement changé. Je ne suis pas sûre, d'ailleurs, que pouvoir et télévision aient de meilleurs rapports en ce moment. Mais ce jour-là, en effet, j'avais trouvé les confrères bien glacés, oui, bien glacés de révérence devant le pouvoir. On en parlait tout à l'heure de cette révérence, justement, qui
alors,
menace le pouvoir.
Alors, Anne Sinclair, vous allez voir la différence, parce que là, c'est Valéry Giscard d'Estaing, dont président assis, président debout, enfin, des questions plates et des réponses convenues. Mais deux pages plus loin, hier soir, Mitterrand à carte sur table, a fait un tabac. Pour parler showbiz. Très président, très beau aussi, bonne mine, bon sourire, costume élégant. Là, c'est toute la joie du monde.
Oui, là aussi, il y a l'ironie et l'humour. Non, mais c'est exact. Je crois que là, au hit parade des prestations télévisées, on peut dire que François Mitterrand a sans doute réussi ce jour-là une des meilleures prestations. Vous savez, c'est la fameuse où il avait parlé de la peine de mort, alors que cette peine de mort était si impopulaire et ça avait, en effet, touché pas mal de gens. Et puis, on peut dire que Valéry Giscard d'Estaing n'avait pas fait ce jour-là la meilleure. Il en a fait d'autres excellentes. Vous savez, c'est le jeu des rapports, un jour l'un, un jour l'autre. Moi, j'ai suivi un peu la campagne électorale, comme ça, je les détaille un peu à un moment donné, où je donne toute la liste de ceux qui paraissent à la télévision. Je ne suis pas très tendre non plus, parce que, bon, c'est presque le jeu du hit-parade, vous voyez. Celui-là, il est bon, celui-là, il n'est pas bon, exactement comme on
ça
fait.
Ça se passe comme ça, d'ailleurs.
Voilà,
hein.
C'est exactement comme ça. On dit celui-là, oh, qu'est-ce qu'il a été bon ce soir, ou celui-là, qu'est-ce qu'il n'était pas bon. Bon, c'était vraiment ce jeu-là.
Et puis, il y a eu le grand moment, le samedi 28 mars, patatras. Je le craignais depuis longtemps, on me propose au nom du PS d'interroger Mitterrand à la télévision dans le cadre de la campagne officielle. Refuser serait lâche, accepter, c'est me ranger peu ou prou dans le camp des journalistes militants. Et là, dès lors que l'on se pose cette question, c'est déjà ennuyeux, je trouve, parce que, en effet, vous le dites, vous êtes journaliste. Vous devez recevoir Mitterrand comme vous auriez pu recevoir Giscard, comme vous auriez pu recevoir dans d'autres candidats.
Oui.
J'estime que les journalistes doivent pouvoir recevoir n'importe qui.
Absolument, c'est bien mon avis. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai fait. C'est ce que j'explique. J'ai essayé de faire mon métier de manière aussi vraie que possible dans le cadre le plus faux qui soit. Parce que le cadre le plus faux qui soit, c'est celui d'une campagne électorale. Parce que peu ou prou, on vous assimile aux candidats. Ça vous est arrivé, vous aussi, Jacques Chancel, d'interviewer
Valéry Giscard d'Estaing.
Je trouve ça tout à fait logique. Mais vous savez très bien comment les gens vous cataloguent parce que c'est la fenêtre télévisée qui appartient aux candidats. D'ailleurs, je raconte quelques petits débats que j'ai pu avoir au sein du comité des programmes d'Antenne 2, où on m'a fait ces remarques peu amènes, que puisque j'allais interviewer Mitterrand, j'étais forcément une journaliste vendue au Parti Socialiste.
Et bien, j'estime que... On vous a dit ça ?
Oh, quasiment. Quasiment, oui, quasiment.
Et pourtant, j'étais là.
Non, c'était un jour, justement, je l'ai beaucoup regretté. Vous étiez absent et j'ai beaucoup regretté. On va pas refaire l'histoire des comités des programmes d'Antenne 2. Non, je crois que, justement, il faut essayer de prouver, et vous l'aviez fait, j'ai essayé de le faire, qu'on peut justement garder sa liberté de journaliste parce qu'on fait son métier et parce qu'on n'a pas de raison d'être complaisant, parce que le journaliste qui interviewe le candidat n'a pas de raison d'être le comparse, le complice. C'est casser le jeu, c'est au contraire dévoyer le métier. Au contraire, on peut essayer de jouer sa partie. Alors, c'est pas très facile, c'est sûr, parce que c'est vrai que la case appartient au candidat et qu'il aimerait pas tellement qu'on le desserve. Mais je crois que j'ai essayé de le faire, et de le plus honnêtement du monde. Ça, vraiment, je vous l'assure.
Mais à côté de cette passion que vous avez et que l'on reconnaît, elle est dans votre ton, dans vos paroles, dans vos phrases. Il y a aussi toute l'inquiétude de la mère. Et cette inquiétude, elle est partout au long du livre, parfois dans des phrases tendres. Vous parlez de votre fils. Vous savez déjà ce que vous voulez lui inculquer. Mais que recevra-t-il ? On peut croire élever Teilhard de Chardin et découvrir qu'on a couvé Mesrine.
Oui, je crois que l'important, c'est moins encore l'éducation qu'on lui donne, mais c'est le seul terrain sur lequel on puisse juger soi-même. C'est moins l'éducation qu'on lui donne que ce qu'il reçoit. On fait tout son possible, j'essaye. Et j'ai essayé très tôt de lui apprendre ce qui était juste, ce qui n'était pas juste. Je donne beaucoup d'importance à la morale. Alors même un enfant petit, je crois qu'on peut lui apprendre ce que c'est que des règles morales. Mais tout ça, c'est ma bonne volonté à moi. Reste à savoir ce qui va rester dans le tamis de la vie, dans le tamis de sa mémoire. Reste à savoir ce que lui va retenir de tout ça, et puis qui donnera peut-être tout à fait autre chose que la cuisine que moi j'essaye de fabriquer. Et puis c'est tant mieux, parce que j'espère que lui réagira de manière différente, qu'il aura sa personnalité. Mais on aimerait bien comme ça façonner son enfance. Ce qu'on aimerait, c'est presque mettre tous les boulons sur la table et lui apprendre comment on monte la mécanique. Mais malheureusement, il va essayer de la monter lui-même. Alors c'est là toute la
magie. Si vous n'aviez pas votre enfance, si vous n'aviez pas David, vous seriez beaucoup plus libre. Vous feriez les choses d'une manière différente.
Oh, je serais plus libre matériellement de mon temps, sûrement. Plus libre aussi. Peut-être de me donner à ce que je ne voudrais pas, c'est-à-dire cet esprit de carrière. Mon fils me sauve. C'est-à-dire que. Vous savez, s'occuper d'un enfant toute la journée, je crois que la femme qui est dans les couches et les culottes toute la journée, ça ne l'épanouit pas et elle a besoin un peu d'air du dehors. Mais n'avoir que l'air du dehors, c'est assez desséchant. Et finalement, vous parliez de cette année politique, cette année d'enjeux, cette année où je fréquente... j'ai approché quelques grands de ce monde, disons, entre guillemets, en tout cas, supposés grands, tels qu'ils apparaissent aux premières pages des journaux. Et bien, vous savez, la fréquentation de mon fils, ça rapetisse tout le reste, et ça relativise beaucoup. Finalement, on s'aperçoit que l'important n'est pas forcément où on croit. Et c'est très important, l'équilibre des deux, la balance des deux, le regard des deux. Et... c'est un peu ça que j'essayais de faire dans ce livre, c'est un peu le double regard. Voilà, le regard de la femme qui mène une vie extérieure, mais Dieu soit loué, il y a le regard sur le tas de sable, il y a le regard sur l'enfant chez lui, ou l'enfant dans son square, ou l'enfant et moi. Et ça fait beaucoup de bien, ouais, ça rend les choses à leur juste niveau.
Ce livre, comment voudriez-vous qu'il soit reçu ?
Bien.
Non, mais dans quel sens ? Parce qu'on écrit un livre, on a oui. Des signes.
Moi, je voudrais qu'il soit compris comme justement un témoignage de femme pour essayer de sauvegarder l'équilibre, de préserver l'harmonie, d'essayer de sauvegarder l'essentiel. Je voudrais qu'on comprenne ça comme, non pas comme un témoignage d'une journaliste qui aurait vu un tel ou un tel. C'est pas un livre d'anecdotes, c'est pas un livre de rencontres, c'est pas forcément ça, même s'il y en a quelques-unes au fil des pages. C'est vraiment un essai de voir comment justement une vie de femme peut se construire à travers des combats, à travers ce qu'on croit, en essayant de préserver au maximum sa sincérité. Je crois que j'ai été très sincère en écrivant ce livre, et le plus honnête possible, en tout cas. Je ne sais pas si on l'est tout à fait.
Lorsque vous regardez votre écran de télévision et que vous voyez Christine Ockrent, comment réagissez-vous ? Vous ne vous dites pas « j'aurais peut-être dû le faire ». J'ai été, non pas lâche, n'est pas le mot lâche, je n'ai pas été tout à fait courageuse.
Je crois que Christine est une très grande journaliste. Ouais. Je suis persuadée
avec
que c'est
une présence exceptionnelle.
C'est une très grande dame de la télévision qui est une très grande professionnelle avec une grande rigueur, une très grande connaissance du métier. Elle est belle. Elle a tout pour réussir à la télévision et ce qu'elle fait lui convient merveilleusement bien. Je ne suis pas sûre d'avoir tous ses atouts d'abord, donc me comparer à elle serait peut-être audacieux. Je crois surtout que j'ai pas peut-être forcément le même tempérament ni forcément la même vie. Je vous dis, moi, je suis assez soucieuse de préserver d'autres choses et d'autres équilibres. Et surtout, vous disiez tout à l'heure que Pierre Desgroupes m'avait proposé le journal télévisé. Il est exact qu'il m'a proposé, en alternance avec Philippe Labro, de présenter le journal de 13h sur Antenne 2.
12h45,
oui, pardon. Et j'ai refusé... Bon, c'est vrai que c'est le bâton de maréchal, le journal. C'est la consécration quand on fait de la télévision. C'est le côté noble.
C'est le champ de bataille.
C'est le champ de bataille, sûrement. Et Christine doit en savoir quelque chose et elle s'en débrouille très bien. Mais bon, j'avais l'envie de maîtriser un petit peu mon cadre et de maîtriser un peu mon produit dont vous parliez tout à l'heure. D'avoir un peu la sensation que j'étais aux commandes et le produit fut-il plus modeste que j'en maîtrisais tous les éléments. Un journal, quand vous le présentez, vous êtes la voix et le visage d'une équipe, vous avez une énorme machine derrière et vous êtes un peu le vendeur d'un travail collectif. C'est quelque chose que je sentais pas bien, moi. J'avais envie de donner à voir et à entendre ce que moi j'avais ressenti, vu, partagé, maîtrisé. C'est pour ça que je voulais ma case, je vous dis, même plus modeste, si justement je rêvais de la carrière dont vous parliez tout à l'heure, j'aurais sans doute accepté. Mais j'avais envie d'avoir ma chose à moi et que je maîtrise d'un bout à l'autre.
Alors Anne Sinclair, je reviens à votre carnet de route, le samedi 2 mai, week-end chez les Badinter, Badinter, Elisabeth et Robert Badinter, à peser les chances de Mitterrand, à se saboter mutuellement le moral, à travailler à la radioscopie que je dois faire avec le chef jeudi. Alors, ça me touche personnellement, radioscopie, puis le chef, c'est Mitterrand, vous l'appelez
oui,
le chef.
Oui, j'appelle le chef parce D'accord. que c'est une dénomination amusante. En effet, il était prévu que je fasse une radioscopie, justement.
C'est-à-dire
C'est-à-dire, je sais pas, à vous de me donner la définition. Et disons, il était prévu, puisqu'il m'avait demandé de participer justement aux interviews qu'il allait donner dans le cadre de la campagne électorale. J'avais dit que je l'acceptais et on avait convenu qu'il y aurait une demi-heure dans laquelle je serais d'ailleurs totalement libre de mes questions, comme dans toute radioscopie. Bon, et voilà. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas du tout ça qui a eu lieu. C'est tout à fait autre chose.
Non, parce que les événements allaient plus vite.
Les événements allaient plus vite et on a fait autre chose.
Alors, c'est l'inquiétude et les questions que l'on peut se poser. Mon fils, qui aura 20 ans en l'an 2000, va-t-il connaître 18 années socialistes. Ce n'est pas impensable. L'euphorie gagne les bourgeois heureux du recul du PC, qui s'aperçoivent que l'apocalypse n'est pas pour tout de suite. Donc, vous avez su vous réjouir du recul du Parti communiste parce que ça vous inquiétait. Et même vous inquiétait la présence de 4 ministres communistes au gouvernement.
Oui, c'est exact.
Et vous le dites d'ailleurs,
je le dis tout à fait. Je le dis tout à fait clairement. Je crois qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays qui ont été soulagés de voir un PC réduit à des proportions plus modestes. Quand vous disiez « Mon fils va-t-il connaître 18 années socialistes ?», je me pose la question... Avec l'intérêt journalistique pour savoir la permanence d'un nouveau régime, mais aussi avec l'inquiétude dont je parlais tout à l'heure pour les unanimismes soudains et les groupes bien cohérents. Moi, je suis née en 1948, j'avais 10 ans en 1958, et moi, j'ai connu 23 ans d'un même régime. Et je ne voudrais pas que mon fils connaisse forcément toujours le même régime. Ça non plus, je crois pas.
Vous, voyez, c'est... Vous êtes pour l'alternance.
Ah oui, très vivement.
Alors, tout à l'heure, je parlais du personnage et je disais qu'il y avait le charme et peut-être ce que certains appelaient une froideur, qui, lorsqu'on vous connaît bien, s'appelle très précisément réserve. Mais vous parlez de ce que vous avez fait, et il y avait par exemple cette émission « On n'a pas tous les jours 20 ans », parmi ceux que vous receviez, il y avait Guy Bedos et François Giraud ou Raymond Aron. Mais vous avez regardé vos émissions, et vous vous êtes regardé. Et vous avez trouvé que Bedos était drôle, Bedos m'a fait rire, François Giraud m'a passionné. Mais comme je suis insupportable, péremptoire, péronnel et guindé. Alors vous, vous le dites pour que les autres ne le disent pas. Vous imaginez si je vous avais dit, vous êtes insupportable, vous êtes péremptoire, vous êtes péronnel et vous êtes guindé, Anne Sinclair.
Hein? Bon, bah, c'est, hein? C'est une façon de désamorcer, d'ailleurs. J'essaye toujours
Oui, c'est très adroit.
Non, mais en plus, c'est tout à fait vrai. Je trouve qu'il
vous
y a...
démonter tous les mécanismes.
Moi, j'aime beaucoup faire une émission en direct, ce que je fais en ce moment, parce que je ne me vois pas. Je trouve que c'était insupportable de se voir. Je ne sais pas comment vous réagissez, vous, quand vous voyez la télévision, mais vous faites aussi du direct. Bon, vous voyez, il y a un côté tout à fait désagréable. D'abord, Narcisse, et puis on ne voit que c'est des faux.
Mais on est en direct, ça va.
Oui, alors, on est en direct. Mais j'aime pas du tout me regarder. Et c'est cette impression tout à fait déplaisante que j'ai eue du regard sur le regard. Oui, un malaise très net.
Mais d'ailleurs, vous allez plus loin. Si je faisais un papier, je m'esquinterais. Je me suis trouvée à tel point odieuse que j'ai eu quelques instants pudeur, dépression, la tentation d'arrêter. C'est vrai, on se le dit comme ça. Mais vous savez qu'on peut se le dire à la fin d'une émission, aussi bonne soit-elle, parce qu'on ne sera jamais content. Et je veux dire que lorsque les critiques disent des choses, que le public réagit, en bien ou en mal, ceux qui font les émissions, enfin qui sont dignes de les faire, moi, ne sont pas contents. S'ils sont contents, c'est fini.
Absolument. Ça, je crois beaucoup à la satisfaction permanente. Mais d'ailleurs, les critiques sont là pour vous la rappeler, mais c'est très bien qu'on soit déjà satisfait soi-même. Ça,
Presse et pouvoir, suite... On sacrifiait le cabache. Là, vous le dites. Je suis persuadé en plus que vous le pensez, car parfois on met les gens très haut, parfois également on en fait des martyrs, et tout cela va trop vite. Je le dis d'autant plus que je crois qu'il a dû souffrir de ce qui s'est passé, et on ne se met jamais assez à la place des gens. Et on n'a pas entré dans leur domaine ou dans les histoires de politique. Moi, je regarde les hommes. Et ce qui me plaît, dans ce que vous avez dit à un certain moment, j'ai de la tendresse pour les perdants.
Oui, c'est vrai que El Kabash m'intéresse plus perdant que gagnant, c'est sûr.
Mais vous ne lui consacrez pas quand même tellement de place, mais ça n'était pas le lieu. En revanche, vous attardez quand même sur votre propre cas, sur votre propre vie et sur peut-être une définition personnelle qui vous a fait souffrir à certains moments, c'est votre condition de juive.
Oui, je ne peux pas dire que j'en ai souffert, je serais très très malhonnête de dire ça.
Non, mais par personne interposée, peut-être.
On vit, Dieu soit loué, dans une France tout à fait ouverte, tolérante, qui heureusement, durant les 33 années que je viens de passer sur Terre, n'a pas eu à souffrir de crise antisémite. Non, c'est certainement, disons que c'est plus une façon de le dire et de m'affirmer. Et de le revendiquer. Je crois que c'est plutôt ça. Je crois pas beaucoup qu'on souffre de l'antisémitisme. Enfin, j'espère que non.
Vous le dites comme ça ?
Oui, je le dis comme ça. Je le dis tranquillement. C'est vrai qu'il y a des réactions passionnelles, que la haine est partout, que la haine est dès qu'on se montre. Je crois que vous parliez de Jean-Pierre El Kabash tout à l'heure. Je crois que Jean-Pierre El Kabash... J'ai pas lu encore son livre, donc je n'en sais rien, mais je sais ce qu'on en dit. Peut-être tendance à faire la démonstration que c'est peut-être la cause de tous ces maux. Je n'irai pas jusque-là, je crois pas. Je crois que l'image qu'on donne de soi est la seule chose importante, le reste vient en surplus.
Vous dites aussi, j'ai tremblé deux fois avant de sonner à la porte d'un grand homme. La première fois, c'était en 1969, c'était Madès France. Et la seconde, 10 ans plus tard, vous étiez devant la porte d'Albert Cohen.
Oui.
Ce sont quand même deux hommes assez remarquables, pour ne pas dire plus.
C'était deux passions. Albert Cohen demeure une passion littéraire, mais c'est vrai que je n'ai pas eu la même joie à le rencontrer que j'ai eu à rencontrer Pierre Mendès France. C'est vrai que Pierre Mendès France a été pour moi le symbole de ce que doit être un homme politique, de ce que je disais tout à l'heure, la rigueur, l'honnêteté, le courage, la loyauté, la morale, la justice. Bon, et c'est vrai que le rencontrer, ça a été une grande chance et vraiment un très grand plaisir. C'est vrai aussi que Albert Cohen, ça n'a pas été tout à fait à la hauteur de ma passion littéraire. C'est vrai que je crois qu'il y a des hommes qu'il faut mieux lire que rencontrer, que j'ai été un petit peu déçue. Mais ça n'enlève rien à son immense talent, bien au contraire.
Anne Sinclair, vous parlez aussi de tous vos passages audiovisuels. Et il y a les visiteurs du jour aujourd'hui, mais il y a eu l'invité du jeudi. C'est triste, une émission qui meurt. C'est la deuxième fois que j'assiste à un enterrement audiovisuel. Et à chaque fois, une étrange prescience me fait à temps quitter le navire. C'est-à-dire que vous pensiez qu'il fallait vraiment abandonner l'invité du jeudi, faire tout à fait d'autres choses. C'est-à-dire que vous obligez presque à être de passage, parce que vous avez peur de durer. Vous avez peur de vous habituer.
Je crois que là, pratiquement, en plus, c'était deux émissions qui mouraient. De toute façon, quand j'ai quitté Le Mans Question, c'était une émission que la direction, à l'époque d'FR3, avait décidé d'abattre. Parce que c'était une émission de débat d'idées et qu'on considérait alors que le débat d'idées était jugé subversif et était dangereux. Alors, on avait décidé de tuer cette émission. On l'a d'abord tuée par son contenu en essayant de maîtriser le contenu d'une émission qui était censée être libre. Quand je suis partie de cette émission, l'émission est morte d'ailleurs de la mort naturelle quelques mois plus tard. Quant à l'invité du jeudi, j'ai quitté l'invité du jeudi, mais c'est pas pour ça que l'émission s'est arrêtée. L'émission s'arrêtait de toute façon. Donc de toute façon, il y a à la fois la nostalgie pour une émission qui meurt, et puis c'est aussi assez sain. Il faut faire autre chose, il faut bouger, il faut changer. Et si on ne change pas soi-même, il faut que les événements vous obligent à le faire.
Moi, je ne pense pas que c'est triste une émission qui meurt. Une émission qui meurt, c'est quelque chose qui se lève. Donc c'est important. Et aujourd'hui, il y a les visiteurs du jour. Mais vous êtes beaucoup interrogé avant cette émission. Et vous dites, à TF1, je réunionne. C'est vrai qu'il y a des réunions sans arrêt pour savoir où on va.
À la télévision, on se réunit beaucoup, ouais, il faudrait beaucoup. Dire quand même.
Je planchais hier devant le service de presse de la maison, avec l'envie de donner à croire en ma future émission. C'était avant que vous ne la fassiez. J'ai l'impression que c'est raté. Ils m'ont écouté sceptique et m'ont un peu déprimé. Vous allez doublonner avec le journal. Pensez à la province, ils aiment les variétés, le sport, attention au parisianisme. C'est vrai, vous avez raison. Rappelez donc Daniel Gilbert. C'est-à-dire que vous vous êtes posé la question parce qu'on voulait vous faire faire ce que Daniel Gilbert faisait,
oui,
et vous ne l'acceptiez pas.
Oui, c'est le poids des habitudes. Je crois que les gens sont habitués à quelque chose et se demandent comment ça va être si on essaie de changer le contenu. Bon, là, oui, j'avais envie de donner à croire. J'étais assez enthousiaste sur ma future émission et c'était le rôle d'ailleurs d'être là, critique, à me rappeler les impératifs, l'audience, la province, etc. Des tas de choses que moi j'ai reçues un peu comme. Ils n'avaient pas lieu d'être aussi passionnés que moi, quoi, c'est tout. Donc c'était un peu une douche froide sur mon enthousiasme, mais c'était une façon de dire bon, je ne suis pas là pour faire la même chose que ce qui était à l'avant, c'est une évidence. Je crois qu'il ne faut jamais chausser les pantoufles de personne.
J'ai cru comprendre également, Anne Sinclair, que si vous avez parlé si souvent de François Mitterrand, c'est d'abord qu'il était présent dans cette année particulière,
oui, qu'est
1980, et d'autre part, c'est peut-être aussi parce que votre père n'a pas vu son succès.
Oui, peut-être un peu.
Vous le dites d'ailleurs.
Oui, je le dis très nettement. Mon père, je ne crois pas que mon père était resté ce qu'on appelle un homme de gauche. C'était un bourgeois. Mais il en avait gardé les réflexes. Je ne sais pas, très honnêtement, je ne peux pas dire qu'il aurait été heureux ou non du succès de François Mitterrand. Je ne peux pas le dire. Je dis simplement qu'il avait gardé certains réflexes de générosité qu'il avait gardé du Front populaire. Et c'était cette tradition-là. Oui, sûrement, il la représentait. Mais je ne voudrais pas le faire parler là aujourd'hui. Je ne sais pas véritablement ce qu'il aurait pensé.
Vers la fin du livre, vous écrivez « Je sens que je vais conclure, moi aussi, sur une espèce de projet féministe. M'aura-t-il fallu 200 pages pour déclarer que toutes les femmes sont sœurs dans leur déchirement, leurs exigences ou leur exigence ? » Tiens, il y a une faute.
Ah bon ?
Oui, leur exigence, je l'ai dit au singulier, puis leur est au singulier, exigence est au pluriel.
Eh ben écoutez,
ça n'est pas pardonnable,
c'est une coquille.
Leur volonté de préserver l'essentiel et l'accessoire.
Oui, c'est ça.
Et les femmes reviennent.
Oui,
et elles sont
ça.
En première ligne, elles sont aux lisières de toutes vos inquiétudes.
C'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est essayer de tenir ce panier avec tous les ingrédients en même temps, d'essayer de faire que tous les équilibres soient préservés, d'essayer justement l'essentiel et l'accessoire, parce que c'est important aussi l'accessoire. Alors c'est pas un projet féministe, non, ça n'a rien de féministe, c'est
non.
Simplement...
C'est
très sage,
hein,
c'est très sage quand même, c'est un féminisme très sage.
Mais non, très présent. Qui est peut-être plus fort.
Oui, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment du féminisme, c'est simplement la conscience qu'on a de peut-être une vie plus multiple à tenir entre les mains. Et c'est un peu ça que je voudrais. Je voudrais qu'on reçoive ce livre comme ça. Vous demandez tout à l'heure comment je voudrais qu'on le reçoive. Je voudrais qu'on le reçoive vraiment comme un livre de femme.
Et alors, comme vous avez mis vraiment à l'altitude les femmes, il faut bien que vous regardiez d'un peu plus près les hommes. Alors vous dites, n'y voyez là pourtant, messieurs, qu'un plaidoyer de plus pour un monde qui vous échappe. Où les choix hésitent, les femmes tâtonnent, la vie aux quêtes. Mais je crois que le monde échappe à tout le monde, non ?
Oui, sûrement, les hommes, disons, ne comprennent pas toujours les pas de deux, les hésitations des femmes. Peut-être le monde leur apparaît très linéaire, très sûr, alors que pour nous, enfin pour moi en tout cas, il n'est pas tant que ça, et que c'est justement ces hésitations que j'essaie de traduire. Et je crois que c'est bien de continuer à hésiter, je crois que c'est bien d'essayer de douter, je crois que c'est bien d'avoir plusieurs directions, je crois que c'est bien de tout tenir dans la main, d'essayer en tout cas.
Alors, il y aura un livre pour chaque année, ou c'était simplement une année particulière?
Ah non, c'était vraiment seulement une année particulière. C'était vraiment un seul essai, une seule tentative.
Il ne faut pas s'habituer
sous cette forme-là. Pardon?
Il ne faut jamais s'habituer aux gens.
Ah oui, non, sûrement pas.
De temps en temps.
Sûrement pas. Là, c'est un et unique. Je vous dis, c'était une année, en effet, où il s'est passé beaucoup de choses. Une année que j'avais envie de graver un peu en journaliste, beaucoup en femme, beaucoup en mère. Et c'est un peu ça que j'avais envie de faire. Et je ne recommencerai sûrement pas. Il n'y aura pas un numéro 2. Non.
Alors, il y a deux lignes dernières. Il faut bien à la fin que ce ne soit pas la mort qui gagne, mais les lapins.
Oui, les lapins.
Et ça, c'est bien les enfants.
Oui, les lapins, c'est
le lapin. C'est David d'abord, c'est, non, le lapin.
C'est, le lapin, c'est David, c'est mon fils. Et je crois en effet, vous savez, c'est Staline qui avait dit, il faut que finalement c'est la mort qui gagne. Et ben, je crois pas justement. Je crois que justement, ce qui nous sauve, c'est pas forcément la carrière, c'est pas forcément tout ça. C'est la seule chose, c'est les lapins. Oui, c'est les enfants qui vous continuent, qui héritent de ce qu'on peut leur transmettre, qui transforment ce qu'on leur donne. Enfin voilà.
Alors, vous pensez qu'à la télé, il ne se passe rien d'étonnant? C'est vous qui l'avez dit.
Oui, je crois vraiment qu'il faudrait dire que la télévision, elle n'était pas très bonne avant. Je crois qu'elle est toujours pas très bonne. Je crois que ça n'a pas vraiment changé. Je crois que surtout, il y a une terrible campagne pour faire croire aux gens qu'elle est encore pire qu'avant.
Alors, y êtes-vous également pour quelque chose?
Oh, sûrement, bien sûr, j'ai ma part.
Personne n'est innocent.
Bien entendu, pourquoi pas, j'apporte ma pierre à l'édifice. Je suis une ancienne, je vous l'ai dit. Mais c'est sûr que la télévision n'est pas une excellente télévision, mais elle n'était vraiment pas avant. Je crois qu'il faudrait avoir l'honnêteté de le dire.
Ah alors, il faut savoir également que la presse et la radio mènent le combat contre la télévision. Et que parfois, peut-être, on aurait tout intérêt à se regarder tous.
Ah oui, alors ça,
et
j'engage...
Et que la presse et la radio se regardent aussi.
J'engage vivement les gens de télévision à critiquer un peu la presse aussi.
Oui, mais ça se fait rarement.
Et à dire que finalement, la presse écrite n'est pas si bonne, que certains journaux sont bien ennuyeux, que certains journaux ont bien changé d'image et qu'on regrette peut-être leur forme
d'avant. Ah, même de veste.
Voilà, exactement. Ouais. Il faudrait peut-être le dire, ça, notre rôle.
Anne Sinclair, j'ai été heureux de vous accueillir. Je vous connais depuis longtemps et si je vous ai un peu agacé, c'était pour voir si vous alliez jusqu'au bout véritablement de votre idéal. Mais je suis obligé de reconnaître que vous n'avez pas changé. Et c'est cela le plus important. Et je recommande votre livre parce que maintenant je peux le lire à la fin de l'émission.
Ah oui, allez-y.
On y retrouve toutes les grandes données d'une année. Elle était particulière à différents titres pour différents gens. Mais elle était vraiment... très particulière.
Merci Jacques.